Yasmine Abdel Fadel. Une main de fer dans un gant de velours. Un vent de fraîcheur qui décoiffe.
Cube Radio.
Vous avez regardé la soirée électorale comme moi hier et évidemment, ben aujourd'hui tout le monde parle de ce déficit démocratique qu'on l'a vu, le Parti conservateur avec 13% des suffrages populaires à zéro député. On a avec nous Éric Duhaime, chef du Parti conservateur. Bonjour Monsieur Duhaime.
Bonjour.
Déjà, félicitations et bravo pour votre campagne électorale. 13%, ce n'est pas rien pour un parti qui n'existait pratiquement pas il y a un an.
On est le parti qui a connu la plus forte croissance hier. On a monté de 12% nos appuis. On est le seul parti d'opposition, en fait, qui a été en croissance là, depuis la dernière élection. Donc, c'est quelque chose qui, pour nous, est très important. Mais cela étant dit, comme vous l'avez souligné en début d'émission, là, le fait de ne pas avoir de députés, c'est quand même un peu choquant. Là. C'est la première fois dans l'histoire du Québec qu'un parti obtient autant de votes et se ramasse sans aucun député à l'Assemblée nationale. Pour donner un exemple, une comparaison, quand Québec solidaire a fait son entrée à l'Assemblée nationale avec Amir Kadir, le parti avait fait moins de 4% sur la scène nationale. Quand Mario Dumont a fait son entrée avec l'Action démocratique du Québec, le parti avait eu 6,5%. Nous, on est à 13 et on ne sera malheureusement pas représenté. Donc, il y a eu vraiment une grosse distorsion démocratique. On a pratiquement le même nombre de votes que le Parti libéral. On a 530 000 votes. Je pense que les libéraux sont à 580 ou 590. Et les libéraux se ramassent avec 21 députés, nous autres, zéro.
C'est particulier ce qui s'est passé hier parce qu'on a l'impression que finalement, ces craintes hypothétiques que le mode de scrutin actuel a mené, ben, ils ont vu le jour hier, là, concrètement. Ça existe, ça peut arriver, c'est arrivé que 13% de la population ne puisse avoir aucun siège à l'Assemblée nationale. Par contre, là, on rentre dans un gouvernement majoritaire de 4 ans. On sait que M. Legault n'a pas d'appétit pour changer le mode de scrutin. Les libéraux ne gagnent rien à le changer dans sa formule actuelle.
Non.
Quoi faire pour faire valoir votre point, vous qui êtes absent de l'Assemblée nationale?
Mais 2-3 choses. D'abord, vous avez raison de dire qu'il n'y a pas d'appétit de la CAQ maintenant, mais vous rappelez-vous qu'il y a 4 ans, c'était un engagement solennel, qu'il disait même que ça allait être la dernière élection qu'on allait voter.
Écoutez, M. Duhaime, on va écouter l'extrait qui date de 2018.
On a besoin que le plus de personnes possibles travaillent ensemble. Je pense que le mode de scrutin proportionnel mixte aide justement à ce qu'on travaille davantage ensemble, que ce soit possible de le faire, qu'il n'y ait pas un gouvernement qui a été élu par une minorité de Québécois qui soit capable de prendre des décisions pour une majorité. Donc, moi, je pense que ça va dans le sens, à long terme, du mieux-être des citoyens québécois. Moi, je pense qu'un gouvernement qui ne respecterait pas cette volonté-là des citoyens se retrouvait en difficulté à moyen terme.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Écoutez, 60% des Québécois n'ont pas voté pour François Legault aujourd'hui. Il a 90 élus sur 125 à l'Assemblée nationale. La distorsion démocratique a joué à plein en sa faveur. Puis là, aujourd'hui, tout d'un coup, soudainement, il n'est plus du tout intéressé à réformer ça. Ça témoigne de beaucoup de choses, mais je comprends que ça se passera pas. Là. Je comprends que c'est une bataille perdue d'avance si je me lance dans une volonté de vouloir réformer le mode de scrutin, parce que, comme vous l'avez souligné, non seulement le gouvernement est contre, mais en plus, l'opposition aussi, elle a été avantagée hier. Elle a quand même perdu 400 000 votes là, de l'opposition officielle. Et malgré tout, les libéraux ont réussi à s'accrocher à leur statut d'opposition officielle. Donc, il n'y aura aucune volonté de changer le mode de scrutin. C'est pour ça que moi, je demande en haut, à tout le moins, qu'il y a un Québécois sur 7 là, qui puisse être minimalement représenté à l'Assemblée nationale. J'en ai même parlé avec le premier ministre hier. Je pense que c'est important, de, par exemple, que je puisse participer, je peux tenir mes conférences de presse à l'intérieur des murs de l'Assemblée nationale, à la tribune de la presse, comme je le faisais jusqu'à maintenant, parce qu'on avait Claire Samson, qui était notre député de Bellevue, qui avait traversé le plancher. Je connais aussi un bureau à l'Assemblée nationale pour qu'on puisse se préparer, pour préparer nos trucs, qu'on puisse aussi avoir un budget de recherche, un budget pour nos communications, parce que l'Assemblée nationale reconnaît des groupes parlementaires en fonction de 2 critères. C'est soit le pourcentage des voix obtenues ou soit le nombre de sièges.
Mais là, il n'y a rien qui garantit que Québec solidaire et le Paul Saint-Pierre Plamondon et le Parti québécois vont être reconnus comme groupes parlementaires.
Non. Il n'y a aucune garantie. Là. Normalement, les 3 partis ne devraient pas être reconnus si on y va strictement par les règles écrites. C'est-à-dire que c'est 12 députés ou 20%. Il n'y a aucun des 3 partis qui a obtenu un de ces deux critères-là. Cela étant dit, il y a eu beaucoup d'exceptions au fil du temps, notamment le Parti québécois et Québec solidaire lors de la dernière élection. Donc, on va s'asseoir, on va négocier qu'on va voir, mais je suis convaincu que pour le bien démocratique, là, il faut absolument qu'il y ait une entente. Là. On peut pas être la pire fois dans l'histoire du Québec. On va dire à un citoyen sur sept, vous avez pas le droit, vos idées n'ont pas leur place à l'Assemblée nationale. Les 530 000 personnes qui ont voté conservateur, sortez dehors si vous voulez vous faire entendre. Ça serait un très, très mauvais message à envoyer. D'autant plus qu'on le sait, là, il y a eu une colère, il y a eu une grogne. Moi, je l'ai dit, de la faire rentrer cette grogne-là à l'Assemblée nationale. Je pense que c'est important en démocratie, c'est quand on n'est pas content, il faut l'exprimer. Il y a des gens qui l'ont exprimé, ça serait bien de vous qu'on les écoute pas.
Mais en même temps, M. Duhaime, il y avait beaucoup cette fronde-là, le fait qu'il y ait des personnes qui étaient fâchées. C'était beaucoup relié aux mesures sanitaires qui sont aujourd'hui à toute fin pratique derrière nous. La pandémie est derrière nous. C'est quoi le message que vous voulez porter à l'Assemblée nationale? Parce que on va parler d'autres choses que de santé également, Monsieur Duhaime.
Non, mais vous savez comme moi que le Parti conservateur du Québec a quand même présenté une plateforme avec des idées fortes. On a réussi à imposer des thèmes durant cette campagne électorale-là. Je pense notamment à l'addition du privé dans le domaine de la santé. Je pense, on était le parti qui proposait les plus généreuses baisses d'impôts. Je pense à l'exploitation de nos hydrocarbures, notamment le gaz et le pétrole. Je pense au projet GNL, au Saguenay. Je pense à la liberté de choix des parents en matière de garde de leurs enfants. Il y a plusieurs thèmes où le Parti conservateur s'est démarqué par rapport aux autres. Là. Et ce serait important que ces idées-là se fassent entendre à l'intérieur des murs de notre Parlement.
Sinon, pour vos députés, vos candidats, est-ce que vous regrettez la qualité de certains candidats ou les propos qu'ils ont pu tenir? Est-ce que ça a pu nuire à ce que vous puissiez atteindre au moins une circonscription?
Ben écoutez, on n'a pas le monopole à avoir des candidats qui ont eu des propos controversés. Il y en a même qui ont été obligés d'en retirer plus que nous. Là. Donc, on est le parti qui a retiré le moins de candidats aux propos controversés. On n'a pas eu le monopole de ça. Cela étant dit, vous avez raison qu'il va falloir bonifier notre équipe de candidats. Puis on va le faire. On a 4 ans pour le faire. Tout a été fait à la hâte. Pour nous, on partait à zéro. Moi, j'ai été élu il n'y a même pas un an et demi. Il fallait tout faire en même temps. Donc, j'ai rencontré 300 candidats personnellement au cours des derniers mois en vue de former une équipe de 125 candidatures. Là, on a 4 ans pour le faire. Je pense qu'on va pouvoir prendre les meilleurs éléments de l'équipe actuelle et la bonifier à partir de là. Puis on a 4 ans pour le faire. Donc, ça va être, je pense qu'on va être capable de présenter une équipe encore plus qualifiée lors de la prochaine campagne électorale.
Parlons de Chauveau, Monsieur Duhaime. Est-ce que vous êtes déçu d'avoir perdu Chauveau? Parce que, on va se le dire, vous étiez devant Sylvain Lévesque, qui est un député très sympathique, un homme qui est très gentil, mais c'est pas un ministre sortant, c'est pas une candidature vedette de la CAQ qui avait un gros portefeuille et que c'était une bataille des titans. Qu'est-ce que vous tirez comme leçon de votre défaite dans Chauveau?
Bien, d'abord, c'est que c'est sûr, quand tu es chef d'un parti, tu peux pas passer autant de temps que ton adversaire dans la circonscription. J'aurais aimé pouvoir faire du porte-à-porte à tous les jours. J'aurais aimé aller à la rencontre des citoyens davantage. Quand tu es chef de parti, tu as 125 circonscriptions à parcourir. Donc, c'est évident que j'ai passé beaucoup moins de temps. J'ai eu moins d'énergie dans Chauveau que mes adversaires ont pu le faire. Deuxièmement, les gens votent. C'est quand il y a un député qui est sortant, il y a déjà une sympathie. Il y a des gens qui avaient déjà voté pour la CAQ avant la campagne électorale. Donc, on savait qu'on partait là avec une grosse... C'est un gros travail à faire. Et aussi, il faut le dire, là, la coalition Amnesty Québec a mis énormément de ressources dans la circonscription de Chauveau. Là, vous devriez voir le nombre d'attachés politiques qui ont passé quelques mois dans Chauveau. C'est assez impressionnant.
Votre candidat en Beauce pourrait demander des contestations. Est-ce que vous vous confirmez que ça va être contesté, les résultats de la Beauce-Nord?
Ce matin, il y a eu le recensement des votes. Donc, il y a eu une rencontre au bureau du directeur du scrutin avec notre candidat, son organisateur. Il y a effectivement eu quelques anomalies. Il y a aussi près de 400 votes qui ont été rejetés dans cette élection-là, alors qu'il a perdu par 200 votes. Donc, il est possible, on pourrait demander un recomptage. On est en train d'évaluer là, les recours possibles au moment où on se parle. Mais le recensement des votes est déjà fait. Il s'est fait ce matin. J'ai parlé à mon candidat et ce matin, cet après-midi, on est en train de voir qu'est-ce qu'on va faire pour la suite des choses.
Ça serait une bonne nouvelle pour vous d'au moins avoir un représentant si jamais le recomptage est en votre faveur?
Ça serait une excellente nouvelle, effectivement.
Alors, M. Duhaime, merci d'avoir accepté l'invitation et on va suivre les discussions entourant les contestations en Beauce.
Merci à vous. Bonne fin de journée. Au revoir.
Vous avez entendu Éric Duhaime qui, évidemment, dénonce ces distorsions démocratiques que l'on a pu voir hier. 13 % des suffrages ont été vers le Parti conservateur pour finalement avoir zéro siège. Pour le Parti québécois, ben on est un peu dans la même catégorie, mais au moins eux, ils ont trois sièges dans le chef. Paul Saint-Pierre Plamondon qui a réussi à se faire réélire dans Camille Lorrain. Ils ont 15% des voix, ils ont trois sièges. Et là, les libéraux, évidemment, avec 14% des voix, donc moins que le Parti québécois, se retrouvent avec 21 sièges. C'est quand même énorme. Et là, ça devient difficile de dire que le système fonctionne. Ça devient gênant, tant pour le gouvernement que l'opposition officielle, de dire que le système, grosso modo, n'est pas injuste. Parce que là, c'est réellement injuste. Je me demande si on allait avoir la même intensité d'avoir de ces discussions sur la réforme du mode de scrutin si Éric Duhaime avait au moins remporté un seul siège. Parce qu'un seul siège lui permet une certaine présence et de certains privilèges de l'Assemblée nationale à titre d'élu, chose qu'il n'a pas aujourd'hui. Et là, ça devient difficile. J'entendais Marie, mon petit, en parler. Maintenant, on entend Éric Duhaime en parler. De dire d'avoir, étant donné qu'il a 13% dans les sondages, il devrait y avoir quelques privilèges qui doivent venir avec. Ces privilèges doivent être donnés par le premier ministre. Notamment tenir des points de presse à l'Assemblée nationale, s'adresser à la tribune de la presse, pouvoir participer éventuellement à des commissions parlementaires. Pour moi, ça devient plus difficile parce que je ne voudrais pas personnellement que l'on politise les règles démocratiques. En fait, que l'on change les règles de manière démocratique puis qu'on dise à partir de la prochaine élection, c'est ça les règles du jeu, il n'y en a pas de problème. Mais maintenant qu'on se rend compte que les règles sont injustes, de faire des petits raccourcis là pour assurer qu'il y a un semblant de justice parce qu'on lui a permis de faire des points de presse à l'Assemblée nationale, ça, moi, j'ai pas mal de misère avec ça. Un non-élu qui pose des questions en commission parlementaire, qui participe à la commission parlementaire, ça crée un précédent qui peut être dangereux à terme. Et ça, c'est important qu'il puisse y avoir une discussion là-dessus, là, parce qu'il faut quand même protéger nos institutions démocratiques.